Carnet de région.
L'actualité des radios associatives locales en Occitanie, Pyrénées, Méditerranée.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Carnet de région, l'actualité de la semaine en région Occitanie, Pyrénées et Méditerranée, avec les radios associatives régionales qui vous proposent comme info cette semaine 18 boutiques de l'Odève réinvesties le temps d'un week-end, depuis ce vendredi et jusqu'à dimanche, l'atelier de pédagogie personnalisée des Piémonts fait revivre les commerces du cœur de ville à travers le projet Pas de ville sans pas de porte, un sujet de Radio L'Odève. Un poisson glouton géant échoué sur les plages du département, rien d'inquiétant a priori, mais un sujet bien mystérieux de nos confrères de RCF Maglone Hérault. Des faucheurs volontaires de plantes mutées ont été convoqués aux gendarmeries de Pézenas et Bédarieux lundi et mardi. Robert Martin de Radio Pays d'Hérault s'est rendu sur place. La forêt de Manial du Montégoal, à cheval sur les départements du Gard et de la Lozère, a reçu le label Forêt d'Exception, un sujet de Radio Bartas. Et nous terminerons ce carnet de région avec le 35e Festival Radio France Occitanie Montpellier, qui promet une belle programmation. Le directeur du festival sera au micro d'Amélie Salès de Radio Aviva. Bienvenue, c'est le carnet de région, l'actualité en région Occitanie, Pyrénées et Méditerranée. Dix-huit boutiques du cœur de ville de l'Odève réinvestissent le temps d'un week-end. Depuis ce vendredi et jusqu'à dimanche, l'APP, l'atelier de pédagogie personnalisée des Piémonts, fait revivre les commerces de la Grand Rue et de la rue de Largue à travers le projet Pas de ville sans pas de porte. Marie-Laure Janton, coordinatrice de l'APP, explique la genèse et l'objectif de ce projet au micro de Justine Rocoplan de Radio L'Odève.
C'est un projet qui fait suite à un projet qui avait eu lieu déjà il y a deux ans maintenant sur l'Odève, qui s'appelait l'Odève Inside Out, qui était parti d'un concept qu'on a appelé petit musée sensible de la personne. Et l'objectif, c'est de rendre visible la vie de l'Odève. Et quand on avait fait ce collage à l'époque, on rencontrait beaucoup de personnes, et notamment des commerçants, qui n'avaient pas pu participer à ce projet. Et donc on est parti de cette rencontre-là et de ce constat pour lancer ce nouveau projet avec 26 commerçants de l'Odève qui ont été d'accord pour lancer cette initiative, et on l'a baptisé Pas de ville sans pas de porte, comme on avait baptisé auparavant Pas de ville sans visage. Voilà. Et la logique, c'était que beaucoup de commerces des centres-villes sont fermés à l'Odève, mais pas uniquement, hein, c'est un constat qui est assez général. Et donc on a voulu se lancer dans pourquoi ils sont fermés. Quelles sont, les histoires de chaque commerce, et qu'est-ce qui fait qu'on a un rétrécissement comme ça des centres-villes avec, du coup, la vie qui va avec, qui s'éteint. Et on a envie que ça se rallume, que ça se ranime. Nous, notre axe, c'est l'artistique. Donc, notre réponse, elle va être artistique, avant tout. Elle n'est pas commerçante du tout, ni commerciale. Mais elle va mettre en valeur... trois temps, on a décidé d'organiser comme ça. Le temps du passé, quels étaient les commerces de la rue de l'Ergue et de la Grand Rue dans un temps plutôt ancien. Le présent, donc avec les 26 commerçants qui avaient déjà fait l'objet d'un travail avec la compagnie La Bouillonnante, qui avait fait des portraits en écriture de ces commerçants. Donc ces portraits vont être exposés. Et puis le futur, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer demain. Donc là, c'est des artistes plutôt plasticiens, hein, qui font de la peinture, qui ont réfléchi à qu'est-ce que ça pourrait devenir, qu'est-ce que ces commerces, est-ce qu'ils vont garder une fonction commerciale ou est-ce qu'ils vont devenir autre chose. Et là, on a demandé à des jeunes de participer aussi. Donc il y a des enfants qui ont dessiné, des classes de CM2. Il y a aussi des classes de 4e qui ont réfléchi sur leurs envies, comment eux, de leur point de vue, puisque l'avenir c'est quand même eux. Et voilà, et on essaye de donner un rendu qui, lui, on l'espère, sera artistique, sera beau et sera joyeux.
Les trois boutiques retraçant le passé, le présent et le futur seront ouvertes ce samedi et ce dimanche dans les rues de l'Odève pour interroger sur la place des commerces en centre-ville. Un poisson glouton sur les plages héraultaises. Cette structure en fer vient d'être installée par le département sur le sable de la station balnéaire. Elle y restera tout l'été avec un rôle central, collecter vos déchets pour arriver à l'objectif zéro plastique. Mais comment ça marche? Christophe Morgaud, vice-président chargé de l'environnement au département de l'Hérault.
Alors aujourd'hui, on a lancé l'opération Poisson Glouton. Donc c'est un gros poisson en fer pour sensibiliser les touristes, mais également les populations locales, pour jeter son récipient plastique dans ce poisson. Il y a des ouvertures et on mène cette opération sur 4 stations balnéaires, la Grande Motte, Frontignan, Agde et Vennes. Ça va rester là tout l'été et l'objectif, c'est de remplir chaque jour ce poisson.
Et la Grande Motte est la ville pionnière qui lance le projet ?
Ouais, aujourd'hui, on lance la Grande Motte, cette opération de sensibilisation, mais également de communication. C'est la première fois qu'on fait ça, parce qu'on s'inquiète par rapport à tous ces déchets plastiques qu'on trouve ça et là, pas uniquement en Méditerranée, mais dans la nature.
Et on pourra tout mettre à l'intérieur ? Tout type de plastique est le bienvenu ?
Ben, pas toutes les sacs plastiques, peut-être pas, mais c'est essentiellement les bouteilles, hein, les bouteilles plastiques, canettes qu'on peut mettre à l'intérieur. Après, tout ce qui est mégots, bon, y a des cendriers, mais c'est surtout ces bouteilles.
Parce qu'en fait, il y a 11 000 tonnes de déchets par an qui sont déversés dans la mer Méditerranée.
C'est des incivilités plus qu'autre chose. Alors, il y a ce côté de la Méditerranée, mais il y a aussi de l'autre côté, il y a la partie espagnole, italienne, l'Afrique du Nord. On essaie de lancer cette opération, hein, c'est pas grand-chose, mais sensibiliser surtout les jeunes populations, parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que 70% des déchets qu'on trouve dans la nature sont des matières plastiques. Les matières plastiques ne se recyclent pas, hein, c'est faux. Pour les recycler une fois, c'est une durée de vie très limitée, ça se décycle. On dit elle se décycle. C'est fait essentiellement avec du pétrole, c'est très dangereux. On s'aperçoit qu'il y a de nombreuses espèces animales qui confondent leur alimentation avec ces particules plastiques qui se dégradent au fil du temps. Et ça devient des nanoparticules plastiques qu'on ne voit plus, mais qu'on trouve dans l'eau et dans notre chaîne alimentaire, malheureusement. Et on s'est aperçu il y a quelques mois qu'on le trouvait également dans l'air. Il y a des capteurs qui avaient été posés sur un massif pyrénéen et on l'a trouvé dans la neige fraîche.
Et concrètement, sur la plage, il y en aura tous les combien de mètres, on peut dire ?
Aujourd'hui, c'est une opération de communication. C'est 4 stations balnéaires. J'espère que l'année prochaine, on essaiera de multiplier ces opérations sur d'autres plages.
Et le programme Hérault Littoral, il y a d'autres actions concrètes aussi qui vont être menées à ce niveau-là ?
Alors, Hérault Littoral, bien sûr, on va sensibiliser. Il y a les professionnels qui ont commencé à le faire, tout ce qui est pêcheurs, conchiculteurs, nettoyer les lagunes, notamment. Les lagunes, c'est plus ou moins un milieu fermé, à la différence de la Méditerranée, mais les sensibiliser. Mais ils ont commencé déjà à faire mener ces opérations depuis de nombreuses années, mais il faut les accompagner, il faut les aider.
Christophe Morgaud, vice-président chargé de l'environnement au département de l'Hérault, au micro d'Anna Etchebarn pour RCF Maglone Hérault. Laurence et Catherine, deux faucheuses volontaires, ont été convoquées à la gendarmerie de Pézenas lundi. 3 autres ont été convoqués mardi à Bédarieux. Tous les 5 faisaient partie des faucheuses et faucheurs volontaires qui ont neutralisé en août 2018 à Rodez, dans l'Aveyron, un essai de 2 hectares de tournesol de variété rendue tolérante aux herbicides, ou VRTH, cultivée par l'entreprise RAGT, Rouergue, Auvergne, Gévaudan, Tarnay. Depuis un arrêté du 25 juillet 2018, les VRTH sont considérés comme des OGM par la Cour de justice de l'Union européenne, mais en France, le Conseil d'État ne s'est pas encore prononcé. Contactée par Radio Pays d'Hérault, l'entreprise RAGT ne souhaite pas faire de nouvelles déclarations. À la suite du fauchage clandestin, l'entreprise de semences qui assure travailler dans le respect de la réglementation avait déposé plainte et dénoncé, je cite, « des actes de vandalisme scandaleux avec un impact financier très conséquent pour l'entreprise et les agriculteurs partenaires ». Jean-Claude Julien, viticulteur dans le Lot-des-Voies et lui aussi faucheur volontaire, s'est rendu à Pézenas lundi pour soutenir Catherine et Laurence. Robert Martin de Radio Pays d'Hérault, l'interviewé.
Une nouvelle fois, des faucheurs et faucheuses volontaires convoqués à la gendarmerie. Mais là, presque, de votre part, c'est presque de la provocation, parce que c'est vous qui avez donné aux gendarmes l'identité de cette action au mois d'août 2018.
Alors, c'est pas de la provocation. Nous, on est vraiment à visage découvert. Hein. C'est-à-dire, on n'agit pas clandestinement. On veut vraiment porter notre colère face à ce qui est en train de se passer dans les champs. Et donc, c'est pas de la provocation. On pense qu'il y a beaucoup d'actions, d'ailleurs, où nous faisons un visage découvert en déposant une liste. Et il n'y a pas de suite. Hein. On a pu, comme ça, mettre à mal 3000 tonnes de soja OGM dans un port à Saint-Nazaire. Il n'y a eu aucune plainte. Et la plupart du temps, il n'y a pas de plainte parce que ce que font les semenciers est illégal. Ils le font en douce. Hein. Et leur objectif, c'est, je vais être vraiment simple, mais c'est de dominer le monde en détruisant la souveraineté alimentaire des peuples.
Alors aujourd'hui, 2 personnes ici à Pézenas. Demain, je crois, à Bédarieux, 3 autres personnes. Vous étiez encore plus nombreux que ça à Rodez.
Oui, bien sûr. Donc, il y a des convocations dans toutes les régions de France, puisque cette action, elle est nationale. Des gens sont venus de Bretagne, du centre, voilà. Il y a eu aussi une convocation à Saint-Georges-d'Orc. C'était la première convocation de faucheurs à Saint-Georges-d'Orc. Mais il y a donc 70 personnes et il y aura 70 convocations.
Ce n'est pas la première fois que vous êtes convoqué à la gendarmerie, ce n'est pas la première fois que les faucheurs volontaires font la une de l'actualité judiciaire. Vous n'êtes jamais relaxé quand même, hein ?
Alors, nous avons été relaxés à Dijon. Donc, on a eu un gros procès à Dijon pour un fauchage de colza qui était semé par une coopérative qui s'appelle Dijon Céréales. D'ailleurs, dans cette coopérative, on a trouvé en septembre 2018 des sacs de colza hybrides contaminés par des colzas OGM. C'est-à-dire que non seulement on a ces OGM qui sont les VRTH dans les champs, mais on a aussi à l'heure actuelle des contaminations. La RAGT qui est en cause dans la convocation aujourd'hui a contaminé du colza à destination de l'Allemagne en 2015. Et donc tous ces semenciers, ce qu'attendent ces semenciers, c'est que les faucheurs et puis les citoyens, les consommateurs qui refusent les OGM, ce qu'ils attendent, c'est que nous craquions. Ben, nous leur disons, nous ne craquerons pas, nous résisterons.
Et avec de nouvelles formes d'action, parlez-moi un petit peu de l'affaire des tournesols.
Ah, l'affaire du tournesol, c'est vraiment très très chouette. Ça a été initié par les faucheurs des Pyrénées-Orientales en 2015. Donc ça consiste, en Languedoc-Roussillon, c'est une région où sont produits des semences de tournesol à destination des agriculteurs qui, dans des régions où la culture du tournesol est plus intensive, comme je sais pas le Lauragais. Donc ici, c'est une zone protégée, il n'y a pas de production intensive de tournesol, donc on peut faire de la semence. Parce que la semence de tournesol peut être pollinisée par d'autres variétés de tournesol jusqu'à 3 km de distance. Les abeilles font leur boulot. Donc on a décidé, nous, de nuire à ces tournesols OGM, ces semences qui sont dans les champs ici, en distribuant des graines de tournesol bio à la floraison étalée, différentes dates de floraison, et puis des plants, et puis que les gens les sèment, voilà, et donc on a fait ça. La presse a contacté la RAGT, qui est en cause dans les semis ici, et la RAGT a dit que c'était très ennuyeux, mais qu'ils ne savaient pas, qu'ils demandaient au syndicat des semenciers ce qu'il fallait faire légalement, etc. Donc c'est l'affaire tournesol. Alors, tournesol, ça, c'est un lien bien sûr avec Hergé, tout le monde a compris, mais le professeur tournesol, c'est quelqu'un, comme nos scientifiques actuels, la majorité des scientifiques qui font l'apologie des biotechnologies, qui fonctionnent avec un pendule. On ne peut pas fonctionner avec un pendule, on ne peut pas mettre la planète en danger à coup de pendule, c'est-à-dire bousiller des OGM et croire qu'on connaît le génome, qu'on ne connaît pas le génome.
Jean-Claude Julien, précisons que le viticulteur Lodévois sera lui aussi convoqué pour une garde à vue le 3 juillet prochain. Mardi 18 juin, la forêt domaniale du Mont-Aigoual, à cheval sur les départements du Gard et de Lozère, a reçu le label forêt d'exception. Radio Bartas a rencontré trois des acteurs de cette labellisation à l'occasion de la cérémonie.
Donc je suis Valère Marsaudon, responsable de l'unité territoriale Aigoual à l'Office national des forêts. Alors là, on se trouve à l'Observatoire météorologique du Mont-Aigoual pour la cérémonie de labellisation forêt d'exception. Il y a un peu de vent, mais sinon il fait très très beau. Alors cette cérémonie de labellisation, c'est l'aboutissement d'un travail de 5 ou 6 ans maintenant, de concertation avec, qui a été lancé par l'ONF, et de concertation avec l'ensemble des acteurs locaux, les collectivités, les associations, les établissements publics, etc., pour à la fois mettre en valeur le patrimoine forestier de l'Aigoual, et puis la gestion qui en est faite par l'Office des forêts.
Qu'est-ce qu'elle a pour toi d'un peu exceptionnel, justement, cette forêt ?
Sa diversité, c'est une forêt, on part en bas de 400 mètres d'altitude, on arrive jusqu'au sommet de l'Aigoual, 1567 mètres. On a à la fois un versant atlantique, un versant méditerranéen. On a une géologie qui est quand même assez variée, du granit, du calcaire, des schistes. C'est une forêt qui a aussi, des vues au niveau paysager qui est assez sympathique, au niveau des vues qu'on peut avoir sur des grands paysages, sur la Méditerranée, sur les Alpes, quand il fait beau, sur les Causses. Des petites ambiances aussi à l'intérieur avec pas mal d'eau, de ruisseaux, des blocs de granit, etc. Et puis c'est une forêt qui est exceptionnelle, on va dire, aussi par son histoire. Parce que à la fin du 19e siècle, en gros, l'Aigoual, c'était un rocher nu, un espèce de gros caillou. Et puis avec le travail des forestiers à cette époque-là, des gros gros travaux de reboisement, bah, on en arrive à ce qu'on a aujourd'hui, qui est une forêt qui nous paraît immuable, mais en fait le paysage a beaucoup changé et voilà quoi. C'est historiquement, c'est une forêt qui est très intéressante quoi.
Paul Arnoux, professeur des universités, président du comité national d'orientation forêt d'exception. Alors le label, si on veut être mauvaise langue, on dit que c'est un gadget ou un effet de mode. En fait, c'est un engagement fort de l'Office pour montrer qu'elle est capable de faire de la gestion multifonctionnelle avec des partenaires, avec une nouvelle gouvernance, avec le maximum de partenaires concernés et impliqués. Donc ici, parc naturel, parc national, parc naturel régional éventuellement. Il y a des endroits, c'est avec des communautés d'agglomération, des métropoles comme à Rouen, ou des communautés de communes, les nouvelles structures, qui s'engagent souvent à côté de l'Office pour inventer de nouvelles formes de gestion.
Henri Coudert, donc président du parc national des Cévennes. Alors bien entendu, quand on a un label, eh bien, on s'expose à avoir un retour, bien entendu, heureux d'avoir des gens qui viennent nous voir, parce qu'une forêt d'exception, c'est quelque chose d'important. Donc ce qui va être mis en place, donc, ce sont des endroits avec donc des journées de guidage par et les agents du parc et les agents d'ONF, qui vont faire donc connaître ce que c'est qu'une forêt aux touristes qui viendront. Il y aura, comme je vous disais tout à l'heure, il y aura des endroits qui seront pas interdits, mais qui sont réglementés, parce que, il y a une question de sécurité quand il y a des coupes qui se font en forêt. Puis il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est qu'il y a la quiétude donc, de ceux qui habitent la forêt, donc, c'est d'ailleurs le monde animal, qui n'a pas sur lui aussi peut-être envie d'avoir des gens tous les jours qui viennent les regarder. Donc il va y avoir bien entendu quelque chose qui va être fait pour que, dans des secteurs, ce soit des secteurs qui soient plus fréquentés, dans d'autres secteurs, des secteurs qui sont un peu moins fréquentés. Voilà.
Partons pour le Grand Nord, pour se rafraîchir pour le 35e Festival Radio France Occitanie Montpellier, qui promet une belle programmation. Au micro d'Amélie Salès, Jean-Pierre Rousseau, directeur du festival, nous parle de cette nouvelle édition et de sa ligne directrice.
On va voir ce qui se passe pour ce voyage en terre inconnue. On va partir dans le Nord. Alors, de quel Nord on parle ?
Du Nord de l'Europe, c'est-à-dire des contrées qu'on ne connaît pas très bien ici. Et alors que c'est des régions assez incroyables sur le plan culturel, sur le plan musical, c'est des régions extraordinairement dynamiques dans tous les styles de musique. C'est que c'est vraiment, la musique est extrêmement, extrêmement vivante, que ce soit dans le classique, le jazz, les musiques électroniques, c'est souvent du Nord que vient la nouveauté du Nord et de l'Est. Hein. C'est en fait tous les pays qui sont riverains de la Baltique. Alors vous prenez une carte, vous regardez, puis vous voyez la Finlande, l'Estonie, la Lettonie, les pays baltes, même l'Allemagne, la Russie, enfin voilà. Ça fait quand même un très grand voyage. Et puis je pense que par ces temps de forte chaleur autour de Montpellier,
et
ça fera pas de mal d'aller prendre un peu d'air frais là-haut.
Alors comment s'est fait ce choix de partir
C'est un choix tout à fait personnel. C'est vrai que depuis quelques années, on donne à chaque festival une espèce de thème, de fil rouge, qui n'est pas très contraignant, mais l'Orient 2016, les révolutions, parce que c'était le centenaire de la révolution de 1917 en 2017, 2018, une balade dans la douce France. Et puis, j'avais envie d'explorer un peu ces terres que moi je connais bien, que j'aime beaucoup, parce que ce sont des musiques qui sont, je trouve, très, très proches de tous les publics. C'est que ce sont des musiques qui sont... Vous savez, on disait, ici, la musique contemporaine, sérieuse, et puis la musique techno, on aime bien séparer les choses en France. Et bien, c'est pas du tout ce qui se passe dans tous ces pays-là, où il y a une effervescence musicale incroyable. Et donc, il y a, dans le passé, un passé relativement récent, et puis surtout dans le présent, des quantités de musique que j'ai envie de faire entendre. Donc, je propose ce voyage.
Au cours du voyage, on va découvrir, on va redécouvrir et on va continuer dans l'ADN du festival, à savoir découvrir des nouveaux talents.
Première chose, oui, vous avez raison, c'est le mot découvrir, le mot découverte. Je crois que c'est effectivement ça l'ADN du festival depuis le début. C'est faire connaître des répertoires qu'on ne connaît pas, surtout dire au public, je dis bien au public au pluriel, vous savez, la musique, ça fait plutôt du bien, donc venez découvrir. Vous ne connaissez pas, mais c'est pas parce que vous ne connaissez pas ou que ça ne vous dit rien qu'il faut pas venir écouter. D'où aussi la gratuité d'un grand nombre de concerts. C'est aussi pour ça que ça rend aussi plus accessible. Tous les concerts en métropole, par exemple, dans les communes de la métropole, sont gratuits. Et ce sont pas des concerts au rabais, c'est au contraire, on offre le meilleur de ce qu'on a trouvé, c'est-à-dire des artistes en émergents, des gens qui ont un talent déjà absolument incroyable.
Le festival Radio France Occitanie Montpellier aura lieu du 10 au 26 juillet prochain à Montpellier. Pour retrouver le programme complet, rendez-vous sur le site www.lefestival.eu. Le carnet de région, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci aux radios qui ont bien voulu contribuer à l'élaboration de ce magazine d'information cette semaine. Et merci aux autres radios pour sa diffusion. Rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure, pour le prochain numéro du carnet de région. L'actualité en région Occitanie, Pyrénées, Méditerranée. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end.